Jardin de Soleil et l'Hôtel des Pins vous souhaitent un merveilleux été. L'Hôtel des Pins a 100 ans cette année et vous propose une carte et des menus à la mesure de ses très grands bonheurs.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ici à l'Hôtel des Pins. Vous le savez, c'est un été 2026 incroyablement confortable que nous passons grâce à l'ami Guernotte. Et nous fêtons, vous le savez, quotidiennement le centenaire de ce vénérable établissement. Et on s'y trouve extrêmement bien, surtout par les températures du moment. Et ça fait du bien d'être sur une petite tonnelle comme ça à l'abri de la végétation. Alors, comme dirait d'ailleurs, bien sûr, mon otorhinologue. Alors, je voudrais faire une petite parenthèse et vous dire qu'on est très, très reconnaissant envers monsieur le maire Philippe de Gonneville de nous rendre visite aujourd'hui, parce qu'on sait très bien qu'effectivement, aujourd'hui, le temps est très compté pour lui. Et nous allons bouleverser donc l'ordre de l'émission, car il a une heure à nous accorder. Et donc, notre maire qui est aux cieux, Philippe de Gonneville,
bravo.
Vous imaginez bien qu'en ce moment, on est vraiment, vraiment conscient qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Donc nous allons attaquer directement et c'est en deuxième heure que nous passerons ensuite à nos rubriques habituelles, les news, le coup de cœur de la maison de la presse, la dépêche, la météo, l'occasion aussi d'organiser des retrouvailles avec notre grande amie Déborah qui a déjà l'an dernier été venue vous assister le jour où nous vous recevions et puis on va sans doute aussi moins rigoler mais on compte quand même sur toi ma Déborah pour apporter un peu de légèreté et de fraîcheur dans un contexte disons le tout net vraiment pesant. Et puis Loli et puis Brutal évidemment nous tiennent compagnie. Alors on va, je répète, remercie encore. Bonjour Philippe de Gonneville, comment allez-vous ?
Bonjour, écoutez, ça va un petit peu mieux. Je reconnais qu'on a vécu des moments difficiles et maintenant ça va mieux avec un peu de repos aussi, avec
c'est peut-être
quelques nuits de sommeil.
Il paraît que dormir, ça peut rendre service.
Ouais, ça rend service en la matière, surtout quand on n'a pas dormi pour les trois premiers jours du feu. C'était compliqué après.
Bon. Alors on va effectivement aller un peu crescendo dans cette émission. On a un certain nombre de questions à vous poser, mais on va garder les compliqués pour la fin. Comme ça, vous serez bien en jambes, bien, bien endormi, votre méfiance sera au point zéro et bim, on pourra vous tomber dessus.
Quel traître.
Et oui. Et puis Déborah, justement, va commencer la première lame, la première couche de décontraction pour vous mettre parfaitement en condition. Débo, s'il te plaît, c'est quand tu veux. Allez.
Bain de soleil sur Very Good Cap Ferré. Indice 50 de protection d'ennui.
Et bonjour à tous. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Débo et on a bien voulu entendre mes premiers échos à la radio l'an dernier. Je suis une tropézienne qui a bien voulu faire fi de la Côte d'Azur au profit de l'iode du Cap Ferré. Mais je vous rassure, c'est pas pour enfiler des perles. Et pour ceux qui étaient là l'année dernière, toutes mes excuses, je suis revenue. Et oui, il y a un an, je faisais ici mes tout premiers pas à la radio. J'étais stressée, je parlais à 300 km/h. Je ne savais pas trop où j'étais, perdue dans le coefficient des marées. Un an plus tard, me revoilà. Et cette année, il y a du progrès. Je sais à peu près où je suis. Enfin, je dis bien à peu près, parce qu'entre-temps, vous vous doutez bien que je suis retournée à Saint-Trope. Donc forcément, j'ai repris de mauvaises habitudes. J'ai retrouvé mes talons, mes robes, les gros bateaux, les gros nénés, bref, la Méditerranée.
Le maquillage sobre.
Et puis me voilà de retour au Cap Ferré. Alors j'ai de nouveau troqué les talons contre les méduses, les paillettes contre l'éponge et les yachts contre l'épinasse. Et finalement, je me suis rendu compte d'une chose. Saint-Tropez et le Cap Ferré, c'est à peu près pareil. Au Cap, on y mange des huîtres. À Saint-Trope, on y préfère les moules. Au Cap, on n'y boit que du vin blanc. À Saint-Trope, on n'y boit que du feu. La seule différence, c'est qu'à Saint-Tropez, pour avoir l'air riche, il faut montrer sa montre. Au Cap Ferré, il faut avoir l'air de ne pas savoir quelle heure il est. Et je dois reconnaître que cette année, dès mon arrivée, j'ai trouvé l'accueil particulièrement chaleureux. Parce que je vous confie que sur la route, j'ai croisé un nombre assez impressionnant d'hommes en uniforme. Alors je ne sais pas ce qui se passe au Cap Ferré, mais j'ai immédiatement annulé mon abonnement Tinder. Et oui, pourquoi payer 29,99€ par mois alors qu'ici, je trouve les plus sexy de la Terre. Vous savez, ceux qui font le calendrier tout nu. Alors sans mauvais jeu de mots, je lance un appel. En tout cas, merci, un grand merci à nos héros. Et à mon arrivée, il faut le dire, l'accueil est d'autant plus chaleureux puisque j'ai la chance d'être pour ma seconde fois aux côtés de Monsieur le Maire. Et justement, puisqu'on parle de Monsieur le Maire, je suis particulièrement heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Parce que l'année dernière, j'étais tellement impressionnée de faire ma première radio à vos côtés que je n'ai absolument pas eu le temps de vous draguer. Alors, et oui, il faut dire qu'il faut être cap de le ferrer celui-ci.
Oh.
Oui, j'ai ouï dire qu'avant ses engagements municipaux, monsieur le maire était dentiste. J'ai donc volontairement bouffé des fraises tagada pendant un an afin qu'il daigne enfin explorer mes caries. Cette année, Hervé Tonton a eu la gentillesse de me réinviter. Et surtout, il m'a donné 2 heures. Hervé, merci. Mais deux heures avec monsieur le maire, moi je prends ça comme un signe. Et puis en arrivant ici, j'ai appris qu'il se passait quand même des choses extraordinaires. Hier par exemple, l'éclipse. Tout le monde parlait de l'éclipse, les lunettes, le ciel, le soleil, la lune. Enfin franchement, je comprends pas pourquoi on en fait tout un foin. Vous vouliez voir la lune ? Il fallait me le demander. Ça aurait été beaucoup plus simple. Et surtout, pas besoin de lunettes spéciales. De toute façon, vu toutes les crevettes maillots que je décortique ici, je suis pas certaine de rentrer dans la lunette. Enfin, monsieur le maire, ne répondez surtout pas, on vient à peine de commencer l'émission. Bref, vous l'aurez compris, après une première expérience l'année dernière, je suis ravie d'être de retour. Parce que je dois vous faire une confidence. L'an dernier, je vous avais dit que j'étais repartie du Cap Ferret complètement piquée. On m'avait cloué le bec. Eh bien, un an après, le diagnostic est confirmé. Saint-Tropez a toujours mon cœur, mais le Cap Ferret commence sérieusement à lui faire concurrence. Et comme entre les deux, mon cœur balance, j'ai décidé de ne surtout pas choisir. Après tout, une tropézienne au Cap Ferret, c'est peut-être simplement une fille qui a compris qu'on pouvait avoir le bassin et la Méditerranée et que tout ça, c'était finalement pas la mer à boire. Et maintenant que j'ai monsieur le maire pendant deux heures, on va peut-être enfin savoir si je peux obtenir la double nationalité.
Bravo, bravo, merci beaucoup Déborah.
Bon, voilà. Vous n'êtes pas venu pour rien, monsieur le maire.
Ben voilà, c'est bon, vous pouvez y aller. Bonne journée. Très bien, alors Philippe de Gonneville, on va attaquer, je le disais, directement nos questions parce que ben, voilà, le temps est un peu compté. Alors on va déjà commencer par la base, comment allez-vous ?
Écoutez, ça va mieux. On n'a pas dormi pendant quelques nuits, on a beaucoup travaillé, on a essayé de prendre nos responsabilités, on a fait en sorte qu'il n'y ait pas de victimes et de ce côté-là, c'est un succès.
Manifestement, c'était le mantra de tout le monde, hein, aussi bien les services de l'État que vous-même, la première des priorités, c'était pas de victimes, évidemment.
Bien évidemment, nous avons eu un feu qui a dévoré 42 000 hectares. Ouais. Et avec des vitesses de propagation qu'on n'avait jamais vues, avec des pyrocumulonimbus qui n'avaient jamais existé en Europe, même en Europe occidentale. Et c'est la raison pour laquelle, c'est vrai qu'on peut se féliciter quand même si on a eu des dégâts considérables, avec 240 maisons sur le département de la Gironde qui ont été totalement détruites, dont 25 allèges Cap Ferret. Et c'est vrai que nous avons perdu, nous, à peu près 4000 hectares de forêt, domaniale et de particulier. Oui. Mais il n'y a pas eu de victimes. Et je pense que ça, c'est quand même un point très positif.
Alors on va, je le disais, aller crescendo un peu dans cette émission. Donc on va peut-être commencer à partir de maintenant. L'autre jour, récemment, une décision de maintenir les fêtes de village, notamment les fêtes de la mer et ensuite les fêtes là-bas à l'herbe, ont été maintenues. Donc je suppose qu'il est l'heure de tourner la page, mais quand même en faisant attention.
C'est vrai que c'était une décision difficile à prendre. J'ai consulté les élus de mon équipe et nous avons décidé effectivement de maintenir les fêtes du canon et les fêtes de l'herbe. Pourquoi ? Bien tout simplement parce que les premières victimes sont évidemment celles et ceux qui ont tout perdu. Et nous les soutenons autant que faire se peut avec nos partenaires institutionnels, le département, l'intercommunalité que j'ai la chance de présider, les services de l'État. Et nous comptons d'ailleurs beaucoup sur la visite du Premier ministre lundi prochain. Ouais. Mais il y a également des victimes collatérales. Ce sont nos entreprises, nos commerçants, nos artisans, nos ostréiculteurs qui ont perdu 15 jours de travail, bien évidemment, mais bien au-delà, qui ont perdu un certain nombre de celles et ceux qui avaient prévu de venir et qui ne viendront pas.
Okay.
C'est la raison pour laquelle nous souhaitons maintenir ces fêtes pour essayer de dynamiser l'activité économique et de renforcer le lien qui existe entre ceux qui sont présents pendant l'été et ceux qui travaillent ici toute l'année.
Exactement. Alors moi, je me sens, je le dis depuis quelques jours, un peu schizophrène, si vous me permettez l'expression. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. D'un côté, on a envie de dire, la vie continue. Regardez, la presqu'île est peut-être pas miraculeusement, mais en tout cas très heureusement intacte pour ce qui concerne son extrémité. Et de ce fait, peut-être que celle qui est intacte peut aider celle qui a été abîmée. Et donc, de ce fait, venez consommer, soyez avec nous, finissons l'été ensemble. Et d'un autre côté, quand on dit ça, on se fait aussi attaquer directement par des gens qui disent « Oui, mais le porc, je ne peux pas parler comme ça. Enfin, » Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, monsieur le maire ? Il faut à la fois être solidaire des gens, bien sûr, qui ont tout perdu, mais pour autant s'empêcher de sourire et de finir l'été. Ou alors, si on finit l'été, on insulte d'une certaine manière ceux qui ont perdu et ou qui ont été privés de leur maison.
Alors, c'est vrai que la difficulté, c'est de mettre le curseur au bon endroit. Et je crois que la solidarité, pour ne pas dire la fraternité qui s'est exprimée pendant ces 15 jours, moi, m'ont bouleversé.
Ah oui, c'était fou.
C'était incroyable. Mais c'est vrai aussi qu'il faut penser à demain et à après-demain. Il faut penser à nos commerçants, nos artisans. Il faut penser à nos ostréiculteurs. Et puis après, il faudra repenser la forêt d'après. Ouais. Il y aura un avant et un après. Si vous voulez, il faut constater que le changement climatique est présent et que nous avons enchaîné les canicules cet été.
Oui.
Et que malheureusement, la suite des canicules, c'est le risque d'incendie de forêt qui s'est avéré majeur et qui a détruit 42 000 hectares.
Alors là, est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, des changements idéologiques aussi à opérer? Parce qu'on entend, enfin moi le premier, je suis très très consommateur de forums, de journaux, qu'ils soient de presse ou télévisés. Et systématiquement, quand il est question du climat, du réchauffement, il y a toujours une moitié des gens qui disent « oui, on va dans le mur », et l'autre moitié qui dit « mais arrêtez, vous êtes complotiste, avant-hier à Jonzac, il faisait moins 12 ». Enfin voilà, donc on se heurte vraiment encore à un mur de déni, non?
Je crois que les climato-sceptiques sont de moins en moins nombreux, en tout cas en France.
Ça commence à tomber. Parce qu'effectivement, ce sont des incendies qu'on n'a jamais vus. Cette forêt est là depuis plus d'un siècle, ou voire deux, mais par contre, on n'a jamais eu un incendie comme ça.
Jamais.
Jamais. Donc il y a bien une autre cause qui est responsable, enfin qui veut dire ça.
Ah bah la cause, elle est très claire. La cause, elle est que nous avons accumulé les canicules avec des températures qui frôlaient les plus de 40 degrés. Mmh. Nous avons une hygrométrie basse et nous avons eu des vents de nord-est qui ont généré une humidité relative très très faible.
Les 30-30-30.
Absolument. Nous avions à peu près 12% d'hygrométrie, nous avions 35 degrés et nous avions du vent à 30 km/h. Et il fallait s'attendre à ce risque d'incendie. Alors, de cette intensité, on ne pouvait pas l'imaginer. Puisque c'est, je vous le répète, une première en Europe occidentale. On avait connu ça en Amérique du Nord, en Australie, mais jamais chez nous. Et malheureusement, eh bien, ce feu qui s'est déclaré à Somos a évolué de façon dramatique vers la Presqu'île, mais pas que. Hein. Ça a évolué vers Bordeaux Métropole. Mmh. Et je ne vous cache pas que les autorités étaient très inquiètes de Bordeaux Métropole et des enjeux majeurs qu'il y a à l'ouest et au nord-ouest de la métropole. Et puis vers le sud, vers Marcheprime, Blagon. Et par conséquent, c'est vrai que ce feu était hors norme et qu'il était difficile de le prévoir. Alors, en tout cas, d'en prévoir l'intensité.
Les sapeurs-pompiers et puis les services de sécurité précisent bien, insistent bien sur le fait qu'il n'est pas éteint. C'est-à-dire que pour l'instant, il est circonscrit, on va dire ça comme ça. Il y a encore des fumerolles par-ci, par-là. Il y a encore des temps très chauds qui sont annoncés. Donc, en fait, on en est où exactement? Quelle est la situation? Il y a encore des endroits qui sont à surveiller très attentivement, je suppose.
Alors c'est vrai qu'il y a des endroits à surveiller très attentivement. Moi, je vais vous parler de la commune de Lèche-Cap-Ferré et de la Cauban, si vous voulez. La commune de Lèche-Cap-Ferré, nous sommes en surveillance plus. C'est-à-dire qu'il y a la DFCI, 5 ou 6 véhicules de la DFCI, armés de 2 personnes et puis d'un stop fumeron, c'est-à-dire une réserve d'eau, qui patrouillent dans la forêt pour prendre en charge les fumerons, pour éventuellement, s'il y a des petites récidives, les traiter. Et bien évidemment, j'ai eu le chef de centre encore hier soir au téléphone. Bien évidemment, les sapeurs-pompiers sont en vigilance immédiate, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à intervenir si jamais le feu reprend avec une certaine intensité.
Est-ce qu'il y a encore quelques secteurs Lèche-Cap-Ferré qui fument encore?
Non.
Ok, donc pour l'instant...
Aujourd'hui, non. Moi, j'ai fait le tour avant-hier des zones compliquées. Il n'y avait plus de fumerons, mais on est extrêmement vigilant. Vous savez que ça peut rester en terre, dans des racines, dans la tourbe pendant des
années.
Jours et des
L'Andiras,
jours.
Il y a encore des tourbes.
Voire très longtemps. C'est la raison pour laquelle on est extrêmement prudent. Et avec les températures caniculaires que nous allons vivre aujourd'hui et demain, il y a à nouveau un risque. C'est la raison pour laquelle j'appelle à la plus grande prudence. C'est la raison pour laquelle... Avec Madame la Préfète, nous avons décidé de fermer le massif forestier totalement. Il est complètement fermé et il faut savoir que 95% des incendies sont d'origine humaine.
Oui.
Volontaire ou involontaire, en général involontaire, mais d'origine humaine. Oui. Donc il faut empêcher que l'homme ne rentre dans le massif forestier pour limiter le risque.
Alors, donc il est fermé jusqu'à nouvel ordre.
Jusqu'à nouvel ordre.
Voilà, alors je précise qu'il faut aller très régulièrement sur le site Lège Cap Ferret, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook, où justement des points très réguliers dits de situation sont donnés et où on donne exactement la règle du jeu du moment. Et donc, puisqu'on vous tient, Philippe de Gonneville, à l'heure actuelle, au moment où on se parle, qu'est-ce qui est interdit et qu'est-ce qui est autorisé ?
D'abord, il faut appeler à la prudence et à la vigilance. Je crois que c'est la première des choses, c'est le bon sens. Il est interdit de rentrer à pied, en vélo ou en engin motorisé dans le massif forestier. Ça, c'est très clair.
Okay.
Aujourd'hui, la route du Grand Crau n'est pas encore réouverte. L'objectif est qu'elle soit réouverte le lundi 17 août,
okay,
de façon à pouvoir accueillir celles et ceux qui veulent aller sur cette plage.
Donc aujourd'hui, Truc Vert et Horizon, pour les deux
Truc
plages
Vert
surveillées.
Truc Vert et Horizon, sur les plans plages, plages surveillées, c'est les deux plages qui sont ouvertes sur la commune.
Okay.
Et bien évidemment, une précaution accrue sur l'utilisation de barbecue, sur le débroussaillage dans des portions qui sont extrêmement sèches, sont interdites ou très fortement déconseillées.
Les fumeurs, les fumeuses, mes congénères fumeurs,
bien sûr, là,
faites
c'est
hyper, hyper, hyper attention, pas la cendre par la fenêtre, rien,
ouais,
tout, vous vérifiez, vous écrasez tout ce que vous voulez, vous la mangez, vous mangez votre mégot.
Tu te promènes en ville ou n'importe où, il y a encore du mégot par terre, donc franchement, frais, je veux dire, pas des vieux.
Oui, bien sûr.
Alors, on sait bien sûr que le vélo est une des activités les plus prisées ici sur la presqu'île et pour cause. Donc aujourd'hui, pour être très clair, les seules pistes cyclables ouvertes sont celles qui longent la route.
Absolument. Mmh. Les pistes cyclables qui sont ouvertes sont celles qui longent la départementale notamment,
oui,
de façon à pouvoir rejoindre en sécurité les différents villages de la commune. Mais les pistes forestières sont toutes fermées, j'insiste sur toutes fermées.
Et donc il faut tenir compte effectivement des bornes, cette voie un petit peu synthétique qui nous dit stop, on n'y va pas aujourd'hui, parce qu'elles sont toujours en place bien sûr.
Alors les bornes sont toujours en place, les barrières sont fermées, ouais, et même sur les accès principaux, il y a soit de la police municipale, soit de la réserve communale, c'est-à-dire des agents de la réserve, ouais, communale qui sont présents et qui font de la pédagogie et qui expliquent à celles et ceux qui voudraient rentrer dans le massif forestier, les raisons pour lesquelles le massif est fermé.
Oui, je les vois, ils sont résignés, enfin, entre autres résignés,
entre autres,
et
oui,
il y a beaucoup de cyclistes qui s'arrêtent pour demander ce qui se passe. Et eux, ils sont là, et ils gardent l'accès. Parce que c'est vrai que si on met une barrière, ça ne suffit, ouais, pas.
Souvent, ça ne suffit pas, même non, si elle est intelligente et qu'elle vous parle. Elle vous explique que c'est dangereux, mais ça ne suffit pas.
Très bien. Bon, on a déjà un petit peu parlé, évidemment, de la situation en termes de sécurité. De quoi faut-il encore se méfier? On a parlé donc un petit peu des autorisations. On va faire une toute petite pause, que publicitaire, pas musicale, s'il te plaît. Et on repart directement avec Philippe de Gonneville, maire de Lège Cap Ferret, qui nous fait un point sur les incendies.
Publicité.
On est tellement bien à l'hôtel de la plage, à l'herbe, au bord de l'eau. Pour déjeuner ou pour dîner, pour boire un verre, des produits frais, simples, une ambiance amicale, familiale, des sourires. L'esprit cabane au service du plaisir et des moments partagés ensemble. L'hôtel de la plage, village de l'herbe, Cap Ferret.
La Maison de la Presse, boulevard de la plage au Cap Ferret, s'est ouvert toute l'année. Librairie et journaux, éditions, événements et signatures, jeux, tabac, cigares, vin potage, fournitures, cadeaux, consommables. La Maison de la Presse du Cap Ferret offre un service complet 12 mois sur 12. Malheureusement, ils sont aimables, souriants et compétents. On n'a pas de reproches à leur faire, mais on est dessus et on finira par trouver. Maison de la Presse du Cap Ferret, boulevard de la plage, l'indispensable partenaire du village.
Chêne-Neuil, c'est une petite dégustation d'huîtres façon Sébastien de Grave. Elle est posée sur la plage de la République démocratique des Jacquets. On vous y attend avec grand plaisir. Petite dégustation traditionnelle où il fait bon vivre tous les jours, midi et soir, on continue.
Bain de soleil et l'Hôtel des Pins vous souhaitent un merveilleux été.
Allez, on retourne bien sûr dans cette émission spéciale avec Philippe de Gonneville, maire de Lège Cap Ferret. Nous sommes toujours à l'Hôtel des Pins, ici chez Guernotte, dans des conditions de travail vraiment déplorables.
Oh, c'est très dur.
Nous allons essayer.
Moi, je
ne
reviens pas l'année prochaine. Hein,
non plus. On va essayer de faire contre fortune bon cœur. Avec le lit, avec Déborah, avec Brutal, Guernotte qui nous tient compagnie et bien sûr donc Philippe de Gonneville comme invité principal. Alors Philippe, merci encore parce que vous êtes, je le répète, très très occupé en ce moment et nous consacrer déjà cette heure-là, c'est important. Alors, on est toujours sur, entre guillemets, des sujets encore à à peu près confortables. Et je vais continuer maintenant un peu avec l'économie, bien évidemment. Vous l'avez évoqué tout à l'heure dans votre discours liminaire. Vous expliquiez que, oui, il y avait eu évidemment déjà un handicap financier certain pour la plupart des commerçants ici. Justement, est-ce qu'après, on va dire, une dizaine de jours de réouverture, vous avez déjà une première tendance? Est-ce que les gens sont revenus massivement, pas massivement? Est-ce qu'on a les mêmes que d'habitude? Est-ce que c'est plus prudent? Est-ce que les commerçants expriment un soulagement ou pas?
Écoutez, ce matin, j'ai fait le tour du marché du Cap Ferret. Et il semblerait qu'on ait quand même du monde qui sont présents. Alors, les mêmes, non, sûrement pas, puisque un certain nombre de locations ont été annulées. Et par conséquent, ce ne sont pas forcément la même clientèle. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une parenthèse dramatique de 15 jours, voilà, plus les à côté. Et par conséquent, je pense que nos entreprises, nos commerçants, nos artisans, nos ostréiculteurs, hein, et les dégustations vont être en grande difficulté dans les semaines qui viennent. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pris un certain nombre de mesures, notamment d'accompagnement, notamment avec la Chambre des métiers, la oui. CCI, pour essayer de trouver des solutions. Il y a le chômage partiel qui pourra s'appliquer, nous l'espérons en tout cas. Et puis j'attends beaucoup de la venue du Premier ministre lundi prochain, où bien évidemment je vais défendre bec et ongle les intérêts de nos commerçants, artisans et chefs d'entreprise, parce que ils vont être en difficulté. Il faut savoir que la trésorerie se fait en été, en juillet, en août.
Oui. Voilà.
Et que là, ça va être compliqué pour eux.
Parce que là, on a vu... C'est
ce qu'on avait déjà expliqué, ce qu'on a déjà dit. C'est 15 jours de manque d'exploitation, mais ces 15 jours ne correspondent pas... C'est 80% du chiffre qui est fait pendant l'été. Donc, c'est quasiment la moitié du chiffre en 15 jours qui est parti. 50%.
Alors, peut-être pas 80%, mais c'est vrai que... D'abord, on a des entreprises liées directement au tourisme et les autres.
Oui, voilà, pour celles-ci.
Celles qui sont liées directement au tourisme, eh bien, en gros, 60% du chiffre d'affaires se fait entre le 1er juillet et le 31 août. Ça veut dire qu'une parenthèse de 15 jours plus une semaine, 3 semaines,
voilà,
ça représente un handicap considérable pour ces entreprises. Et même celles qui ne sont pas directement liées au tourisme, il faut savoir que 80% de l'activité économique de la presqu'île à Cap-Ferré est liée directement ou indirectement au tourisme. Et à partir du moment où on est dépendant du tourisme, directement ou par ruissellement, eh bien on va souffrir de ce drame que nous avons vécu collectivement.
Ok. Alors justement, on a vu par la presse interposée il n'y a pas très longtemps que la préfecture allait recevoir une dotation royale de 300 000 euros de la part de l'État pour aider aux premiers sinistrés. Ça presque donne envie de sourire, parce que là on parle de beaucoup beaucoup de communes, il n'y a pas que l'Eche Cap Ferret. Je le précise, on est très centré l'Eche Cap Ferret aujourd'hui, et pour cause nous y sommes, et nous sommes avec le maire de cette commune. Mais bien entendu, tout un tas d'autres communes du bassin, du Val-de-l'Eure et du Médoc ont subi, voire même de la grande banlieue bordelaise, ont subi des préjudices importants. Et nous sommes, sachez-le, bien solidaires de toutes ces communes-là, c'est évident. Donc même si on parle beaucoup de l'Eche Cap Ferret aujourd'hui, c'est logique, mais on n'oublie pas les autres. Donc 300 000 balles, disais-je, monsieur le maire, c'est quand même, ça prête à sourire quand on voit par exemple que rénover le hall d'accueil du Parlement, ça va coûter 50 millions. On se demande un petit peu, alors oui, mais c'est pas les mêmes budgets. Peut-être, mais c'est quand même l'argent des Français.
Alors c'est vrai que 300 000 euros, ça sera quasiment une goutte d'eau dans l'océan. Pour aider les entreprises. En sachant que, bien évidemment, vous avez celles et ceux qui ont tout perdu. Et il y a eu 240 maisons, dont 180 au Porche, 25 chez nous. Et puis les entreprises qui ont été dans les secteurs qui ont été évacués. Et je pense à l'Eche Cap Ferret qui a été évacué pendant 10 ou 12 jours. Je pense aussi à toutes les entreprises de la Cauban et de la périphérie bordelaise qui ont subi l'évacuation, et par conséquent, il y aura des conséquences sur l'ensemble des entreprises. Ouais. Alors, le gouvernement a déjà décidé le chômage partiel, mais ça ne sera pas suffisant. Le chômage partiel, c'est une chose, mais il faudra quand même essayer de voir si un certain nombre de charges, je pense à l'URSSAF, je pense à la cotisation foncière des entreprises, je pense à un certain nombre de charges qui pèsent sur les finances des entreprises, s'il ne faudra pas non seulement les décaler, mais peut-être les exonérer en totalité ou pour partie.
Est-ce que justement certaines des taxes ou en tout cas prélèvements que peut opérer la commune à son niveau à elle peuvent faire l'objet de telles mesures ? C'est-à-dire que par exemple, je ne sais pas, vous allez encaisser par exemple les choses qui sont sur la plage, vous voyez, vous encaissez aussi quelques taxes, est-ce que vous allez les exonérer ?
Bien évidemment. Bien évidemment, nous déciderons au conseil municipal, parce que ça, c'est pas le maire qui peut en décider, c'est le conseil municipal, nous déciderons une exonération partielle pour l'ensemble des entreprises qui ont été touchées par ce sinistre. Voilà. Okay. Bien évidemment, ça sera le cas, que ce soit sur les marchés, que ce soit celles qui ont des AOT, et bien évidemment, sur les plages, il y aura des exonérations de taxes pour les entreprises qui sont sinistrées, oui.
Je comprends bien. Alors, il faut quand même un petit peu évoluer vers l'après. C'est-à-dire que, déjà, il y a une gestion importante que vous avez opérée pendant... Et alors, je tiens à vous dire, là, ce n'est pas du tout de la forfanterie, mais beaucoup de personnes m'ont dit de vous dire que, quelque part, ils avaient apprécié votre engagement pendant cette période. Ils avaient compris à voir que vous aviez parfois, de temps en temps, tendance à oublier votre rasoir, que vous étiez peut-être un peu occupé, accaparé, que vous ne dormiez pas beaucoup, vous n'aviez pas ce teint habituellement bronzé et hableur que l'on vous connaît. Et donc, on a remarqué l'investissement. Voilà, donc je voulais vous dire que la population, en grosse majorité, a apprécié votre investissement là-dedans. Et ça me permet une transition qui est la suivante. Depuis les années que je vous interviewe, Philippe de Gonneville, vous avez toujours mis l'incendie comme votre hantise principale. Chaque fois que je vous ai parlé, vous m'avez toujours dit, oui, attention, le feu, vous rencontrez votre cauchemar, quoi.
J'ai rencontré mon cauchemar, mais pour revenir à l'absence de rasage, c'est vrai que j'ai quitté moi ma maison le matin et je n'y suis pas retourné pendant 3 jours.
Oui, mais c'est pas
et
grave.
C'est vrai que je n'avais ni rasoir, ni rien du tout. Ma femme était évacuée, elle est partie chez son frère. Donc je me suis retrouvé un petit peu en déficit de rasage.
Et elle est revenue.
Elle est revenue.
Dommage, oui, Déborah.
C'est
pour
pas
ça. Pas
chez moi.
C'est pour ça. C'est pour ça que je peux me raser. Et j'ai oublié la suite de la question.
Non, mais on a vu le maçon au pied du mur. Là, franchement, vous êtes révélé.
Je sais pas si
révélé. Effectivement, c'est pas. Mais sur la gestion de crise, on sentait
un vrai investissement.
Un investissement et à la fois pas une sérénité, mais ne pas céder à la panique, de toute façon, ça sert à rien.
Non, parce que ce que je veux dire, c'est ça, non, mais on est dans la même veine. Je veux dire, monsieur le maire, je parlais donc de hantise que l'on rencontre. Si on prend 2026, il y a une élection municipale qui n'est pas simple. C'est-à-dire qu'en fait, la campagne a été un peu musclée, les résultats ont été compliqués, même si évidemment vous avez été réélu, là n'est pas la question, mais c'est fatigant. Ensuite, de quoi on se récupère donc votre hantise, le disais-je, c'est-à-dire un feu qui dure en plus, c'est-à-dire que ce n'est pas sur un jour ou deux, et là vous êtes sur le pont longtemps. On se rappelle, et là ce n'est pas du tout du voyeurisme, mais vous avez été, il y a quelques années de ça, l'objet d'une intervention chirurgicale plutôt lourde, et qui quelque part était de la plomberie, ça s'est bien passé, tout va bien, vous êtes en pleine forme pour les 30 prochaines années, c'est pas la question, mais c'est pour dire qu'à ce qu'à un moment donné, pardon, mais vous avez craint pour vous-même, est-ce que vous vous êtes dit, putain, je vais péter un plomb ?
Non. Non, je n'ai jamais pensé péter un plomb. Non, d'abord, je ne suis pas tout seul. On est une équipe et on travaille tous en équipe, et j'ai des élus formidables, j'ai des agents formidables. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, d'abord parce que on a vu des pompiers engagés qui étaient prêts à tout pour défendre nos habitations, notre forêt.
Sauver ou périr.
Sauver ou périr au péril de leur vie parfois. Ça a créé une solidarité, j'irais même jusqu'à la notion de fraternité. Vous savez, dans le triptyque républicain, il y a la notion de fraternité.
Liberté,
et là, fraternité. C'est vraiment un sentiment que nous avons ressenti très fortement.
Gernot veut intervenir.
Oui, Philippe, bravo pour ta gestion là, de cet incendie. Le soir, je crois que c'était le jeudi soir où tu étais en direct avec BFM, Info, tout le monde, je te vois parler calmement. Et derrière, il y a le cimetière qui brûle un petit peu déjà, qui commence. Et j'ai dit, mais là, quand même, il va péter un plomb, ou il va s'énerver, ou il va avoir peur. Et tu es resté tranquille. Et alors que là, c'était à 2 pas de la mairie. Et vraiment, toute mon admiration pour ce calme et pour cette sérénité avec laquelle tu as géré cette crise.
Merci Gernot. C'est vrai qu'on a eu un moment difficile quand même, jeudi soir, dans la nuit, où on a eu à évacuer le bourg de Lège. La doctrine était de confiner le bourg, le centre du bourg, et d'évacuer la périphérie, qui était en contact avec le massif forestier. Et puis dans la nuit, à 1h du matin, avec monsieur le sous-préfet, avec le général de gendarmerie, avec le colonel des pompiers, on a vu que le feu commençait à prendre dans le bourg. Et là, il a fallu prendre la décision, et c'est moi qui l'ai prise en la matière, d'évacuer le bourg grâce aux gendarmes mobiles, grâce au dispositif qu'on avait mis en place par le passé, qui était la téléalerte. On a pu sectoriser le bourg de Lège et l'évacuer dans les meilleures conditions possibles, hein, et de façon à ce qu'il n'y ait pas de victimes. Parce que mon angoisse, c'était bien évidemment qu'au-delà des dommages des maisons qui brûlaient, bah, c'était qu'il y ait des victimes à l'intérieur de ces maisons.
Ouais.
Donc on a fait en sorte qu'il n'y en ait pas, et je me félicite tous les jours qu'il n'y en ait pas eu. Mais c'est vrai que dans la nuit de jeudi à vendredi, quand le cimetière était en feu, le cimetière, pour donner une idée, est à 50 mètres de la mairie. Ouais. Le cimetière était complètement en feu, donc nous avons évacué la mairie. On s'est retrouvé en PC crise à Andernos, au siège de la Coban. Et après, moi, je suis revenu, et là, il était 19h quand on est parti avec le général de gendarmerie et le sous-préfet. Je suis revenu au PC des pompiers à 21h30, 22h. Et là, il y avait des écorces qui faisaient 10 cm sur 3 de large, qui volaient dans le ciel, enflammées. Et là, on a compris que la situation devenait extrêmement compliquée. Et donc, nous avons décidé l'évacuation de la totalité du bourg de Lège. Alors, vous dire que j'étais très serein, ça serait très exagéré. Après, l'excitation et l'énervement ne sont pas bonnes conseillères en la matière. Il faut garder son calme et essayer d'apprécier à sa juste valeur les éléments dont nous disposons. Et je ne souhaitais pas voir si ma maison a brûlé, parce que j'avais le sentiment que cette information aurait modifié peut-être. Ma façon de voir les choses. Donc pendant 3 jours, je ne savais pas si ma maison avait brûlé ou pas. Finalement, elle n'a pas brûlé, tant mieux pour moi. Ouais. Mais je pensais que ce n'était pas une bonne idée de le savoir.
Et tant mieux pour les assureurs. C'est une magnifique maison. Alors, plaisanterie mise à part, Philippe de Gonneville, comment ça se passe la chaîne de commandement? C'est-à-dire qu'un maire, il est quand même un peu maître chez lui, ou il faut qu'il écoute ce que dit le préfet, ce que dit le chef des pompiers, ce que dit le SDIS, ce que dit... Enfin, il y a beaucoup de gens qui interviennent là-dedans. Donc alors, en fait, quelle était la compétence de décision du maire?
Alors le maire, dans la mesure, en premier lieu, c'est lui qui est compétent en la matière. Et dès que une certaine ampleur a été prise, c'est la préfète de région qui devient la responsable de l'ensemble des événements. Elle était dans une cellule de crise qui était à Bordeaux, à la préfecture. Et nous avions une autre cellule de crise qui était d'une part dans un camion de commandement des pompiers, okay. Et puis à la mairie de Lège, qui a déménagé ensuite à la Coban, ensuite à Biganos pour revenir à Lège enfin. Voilà un petit peu le dispositif. Alors c'est madame la préfète qui prend la décision sur information bien évidemment du directeur du SDIS. Le contrôleur général Vermeulen, et puis sur avis du maire que je suis, du général de gendarmerie, et on discute entre nous et on pense en général la même chose et on prend la décision qui s'impose à nous collectivement. Voilà. Mais in fine, c'est madame la préfète de région qui prend la décision, à l'exception de la décision d'évacuation du bourg de Lège qui a été prise un peu en urgence.
D'accord.
Qui a été prise conjointement avec les sapeurs-pompiers, le général de gendarmerie, le sous-préfet, moi.
Il y a un dispositif dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est le dispositif FR Alerte, qui est justement, techniquement, je me demandais un peu qui avait la main. Est-ce que vous travaillez avec les opérateurs ou est-ce qu'il y a quelque part en France une cellule qui peut prendre la main?
Parce qu'il faut, qui envoie l'alerte, quoi.
Faut préciser que ça ne passe pas par le même réseau que le GSM, c'est-à-dire que c'est pas la même technologie. Et même si votre téléphone est en silencieux ou en veille, l'alerte se déclenche,
okay.
Quoi qu'il arrive.
Alors nous avions deux dispositifs. Un premier dispositif qui est FR Alerte, effectivement, qui est déclenché par la préfecture. Et un deuxième dispositif, beaucoup plus précis, qui s'appelle Télé Alerte, qui est un dispositif communal dont on dispose depuis 8 ans à peu près, ouais. Et qui permet de sectoriser à la parcelle les appels.
Sur les terminaux mobiles.
Alors, sur les terminaux mobiles, sur inscription. Et nous avons plus de 8000 inscrits sur ce dispositif. Ça permet de cibler avec beaucoup de précision les choses. Et en accord avec le général de gendarmerie et le sous-préfet, on a pu, pour l'évacuation de la presqu'île, faire en sorte que l'évacuation soit progressive. On regardait les caméras, nous étions au PC de crise de la Cauban à Andernos. On regardait les caméras de vidéosurveillance et le trafic routier. Et en fonction de ce trafic, dès qu'il devenait un tout petit peu plus fluide, on déclenchait d'autres secteurs. Ça a permis, et puis il y a eu l'évacuation par voie maritime, 1200 personnes ont été évacuées par voie maritime. Ouais. Ça a permis, me semble-t-il, d'évacuer la presqu'île dans les meilleures conditions possibles. Je ne vous dis pas que ce soit parfait, hein. Mais dans les meilleures conditions possibles, sans qu'il y ait un bouchon absolument terrible, ce qui ne fut pas le cas dans d'autres communes.
C'est l'occasion aussi de souligner le civisme des gens qui ont été évacués. C'est-à-dire ça s'est passé relativement bien.
On a été témoins, c'était très bien.
Il faut saluer le civisme et puis l'organisation avec la gendarmerie, les forces de l'ordre, la police municipale. C'est un ensemble. D'abord, on avait préparé le coup, puisque, comme Hervé l'a dit, c'était ma hantise depuis déjà de très nombreuses années. On avait préparé, avec les services de la préfecture, avec la gendarmerie, l'évacuation par voie terrestre et par voie maritime. Malheureusement, là, c'était plus de l'entraînement, c'était de la réalité. Et nous avons tiré profit des entraînements que nous avions faits. Le dernier était il y a 9 ou 10 mois.
Est-ce que vous avez vu des failles, justement, dans le système auxquelles on n'a pas pensé
Bien sûr, on a vu des failles, on a vu des points faibles. Un des points faibles, ça a été l'accueil des personnes fragiles dans les centres d'accueil.
Exact.
Voilà. Clairement, ça a été un point faible et au retour d'expérience que nous ferons...
Pour la réintégration, pareil d'ailleurs. Il y a quelques personnes qui arrivaient le jour de la réouverture qui disaient « moi je suis handicapé, j'ai des valises, il n'y a personne pour m'accueillir ».
Oui, ça a été encore pire à l'évacuation parce qu'on a eu le sentiment que ces personnes-là étaient un petit peu abandonnées dans les centres d'accueil qui n'étaient pas prêts à accueillir des personnes avec des pathologies sévères.
Oui, un lit de
camp. La difficulté, c'est que au-delà du lit de camp, quand vous n'avez pas le nom du médecin traitant, le traitement, la nature exacte de la pathologie, eh bien vous êtes dans une situation difficile, d'autant plus que vous n'êtes ni médecin, ni infirmier, ni personne médicale. Okay. Et là, il y a eu vraiment, en retour d'expérience, il faudra améliorer les choses. Et ça fait partie des éléments améliorés.
Alors pour les coulisses, j'ai cru comprendre qu'il y avait entre 5 et 6 000 appels par jour au standard de la mairie et que donc vous aviez comme stratégie, et là je l'ai bien vécu puisqu'effectivement en tant que relais aussi des informations importantes et des points de situation, on avait conscience qu'il fallait éviter, si j'ose dire, les initiatives parallèles. C'est-à-dire que vous vouliez garder la main sur toutes les personnes qui, même de bonne volonté, d'ailleurs de très bonne bienveillance à l'extérieur, disaient « ah tiens, ben alors il y a mon chat » ou alors « tiens, il y a mon compteur électrique ». Enfin, il y avait toute une petite solidarité parallèle qui se développait, qui sur le papier pouvait paraître justement pour de la grande bienveillance, mais qui en fait vous emmerdait parce que vous n'aviez pas envie qu'il y ait des passerelles un petit peu partout, vous vouliez la main sur les flux entre l'intérieur et l'extérieur.
Alors je ne voulais pas la main sur les flux, je voulais assurer la sécurité de mes concitoyens et des habitants de la Presqu'île. C'était ça mon obsession. Bien évidemment, on a refusé, d'abord je rappelle qu'il y avait une décision préfectorale d'évacuation. Donc normalement, tout le monde aurait dû être évacué, sauf ceux qui avaient de bonnes raisons de ne pas l'être. Ce fut le cas à 98%, ce ne fut pas le cas à 100%, clairement. Parallèlement à cela, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on a fait un petit peu en douce, parce que ça n'était pas autorisé, en tout cas, mes demandes qui avaient été formulées au niveau du centre opérationnel de direction n'avait pas reçu d'aval et on s'est débrouillé, notamment avec le bénévolat. Et le bénévolat était quelque chose de formidable. Oui. Et nous avons vécu des moments exceptionnels. Bien évidemment, il y a eu des angles aussi, parce que quand vous êtes sous tension, et cette tension-là était très forte, mais il y a eu un mouvement de solidarité et de fraternité incroyable. Par les bénévoles, par les jeunes qui aidaient les pompiers à recharger leur...
Listons tous les gens qui ont rendu service, justement, parce qu'on parle toujours, bien sûr, des bénévoles, des volontaires, mais aussi des pompiers, mais il y a aussi des anonymes qui faisaient à manger. Enfin.
Alors, je vais peur d'en oublier, mais je vais essayer de les lister. Les premiers, c'est les sapeurs-pompiers. Ça, vraiment, ils ont été admirables. C'est eux qui ont éteint l'incendie. Je dis bien, c'est eux qui ont éteint l'incendie.
C'est eux qui étaient sur... Et donc pas le vent, mais on en parlera
tout à l'heure. Non, pas le vent. C'est les sapeurs-pompiers qui ont éteint l'incendie. Les forces de l'ordre au sens large du terme, la gendarmerie, la police nationale, la police municipale, et puis un ensemble de bénévoles. Alors bien évidemment les élus, et je suis très fier de mes élus, ils se sont investis à 300%. Les agents, il y a une centaine d'agents, notamment vous parliez du standard téléphonique, oui. Il fallait des agents, parce qu'effectivement nous avons eu entre 3 et 4 000 appels tous les jours.
Incroyable.
Donc il fallait des agents mobilisés. Et puis il y a eu des bénévoles qui se sont manifestés et qui ont été prêts à accueillir les sapeurs-pompiers, à leur préparer des sandwichs, à préparer la nourriture. Je pense à toutes les entreprises qui nous ont aidés dans ce sens-là, les restaurateurs. Et on mangeait tellement bien qu'il y avait des gars en hélico qui venaient poser l'hélico, je la connais, déjeuner rapidos pour repartir. Et c'est vrai que les chefs des restaurants nous préparaient des petits plats. C'est vrai que les entreprises ont ouvert leur frigo et leurs réserves pour nous donner de quoi satisfaire 1000 personnes. On a monté un système qui faisait 1000 repas matin et soir.
D'accord. Voilà.
Dans une ambiance électrique, mais il y a une solidarité, une fraternité folle.
Très bien. Et vous avez même reçu un très très beau t-shirt des sapeurs-pompiers marseillais.
Absolument.
Et voilà, et vous allez avoir un t-shirt de Very Good Cap Ferré pour la peine, puisqu'on a décidé que le noir vous allait bien.
Merci.
Voilà, donc ça c'est fait. Alors on va faire une dernière page de publicité. Et
alors j'ai oublié, si je puis me permettre, les jeunes qui se sont mobilisés pour aider les sapeurs-pompiers.
Et effectivement, c'est
alors c'est vrai que j'ai poussé une grande gueulante à un moment donné parce que il y avait une désorganisation et surtout certains qui venaient faire les zouaves. Et comme toujours, il y en a 10% qui font les zouaves et il y en a 90% qui servent. Alors je voudrais saluer celles et ceux qui ont servi et on a rejeté celles et ceux qui venaient de très loin parfois, du sud des Landes, Bayonne, avec des 4x4, sous prétexte qu'ils avaient une réserve d'eau et qu'ils faisaient les zouaves, et ça nous a empêchés notamment de...
Parce que les gamins des villages austricoles, ils ont été extraordinaires.
Vous y attendez à ça? Est-ce que ces jeunes aident?
Moi, je ne m'attendais pas à autant de fraternité, parce que c'est vrai qu'on est dans une société assez égocentrique.
Vous en êtes fier quand même.
J'en suis extrêmement fier. Moi, la seule question que je me pose maintenant, c'est comment faire pour que ces valeurs qui sont essentielles pour faire vivre notre démocratie, notre république, perdurent en dehors des moments exceptionnels. Alors, on le voit quand on a les Jeux Olympiques, alors là, il y a une espèce de fraternité. On le voit quand il y a des drames comme ce qu'on a vécu là. Comment faire pour que ces valeurs républicaines soient permanentes et comment faire pour que c'est elles qui font république et qui font démocratie? Comment faire pour les faire perdurer? Je ne sais pas.
Vous avez dû apprécier aussi la solidarité européenne.
Absolument. Tu as tout à fait raison, Guernotte. Nous avions un ensemble de sapeurs-pompiers qui sont venus de toute l'Europe. Je pense aux sapeurs-pompiers qui sont venus avec des hélicoptères allemands, qui ont fait un travail absolument incroyable. Je dis bien incroyable. Je les ai vus, il y avait des norias. Ils prenaient de l'eau à l'océan et ils versaient 5 tonnes d'eau sur le foyer. Toutes les 5 minutes, ils repassaient. C'était incroyable. Nous avons eu des Suisses, nous avons eu des Tchèques, des Slovaques.
Je vais en oublier. Les hélicos slovaques déjà, ouais.
Non mais c'était incroyable. Et nous avons eu la visite d'une responsable de l'Europe qui est de nationalité belge, qui est venue voir cette solidarité européenne. Et moi j'ai été frappé de cette fraternité au niveau local, communal, au niveau intercommunal, au niveau départemental, au niveau national et au niveau européen. Et ça, je pense que c'est quelque chose dont il faut se souvenir.
Un bel exemple de solidarité.
Oui.
Toute petite page de pub et ensuite on passe au sujet un petit peu plus frottant.
Publicité.
L'Hôtel des Pins fête ses 100 ans. Saviez-vous que l'endroit le plus charmant, le plus chargé d'histoire du Cap Ferret est également une table remarquable? Venez dîner sous la verrière entourée de rosiers. Prenez un verre sous les fleurs roses de l'Albicia du jardin ombragé. Oubliez le temps et sentez-vous en paix. L'Hôtel des Pins, près du marché, c'est là qu'on trouve encore le véritable esprit du Cap Ferret.
Un coup de pompe pour le bateau? Poste d'essence du port de la Vigne? Un coup de mou? Un coup de soif? Un coup de faim? Café, boisson, restauration rapide, smoothie au café de la Vigne avec vue sur le port? Un coup de blues en voyant tes amis sur l'eau? Ben, passe ton permis bateau chez Castor et Pollux, sur le port de la Vigne. Permis en poche, loue un bateau chez Ferré Marine et découvre tous leurs autres services. Où ça? Ben, sur le port de la Vigne, évidemment!
Hortense, cabane d'Hortense, un siècle de bonheur au Cap Ferret.
Publicité.
Conciergerie Jobassin.
Vous ne faites rien. Et nous nous occupons de tout. La gestion des locations, entretien, réparation. Toute l'année, jardin, piscine ou surveillance. Tout l'été, bateau, traiteur, livraison.
Conciergerie Jobassin, dites-nous ce que vous voulez et on s'occupe du reste.
Conciergerie du bassin d'Arcachon. Vous gérez beaucoup de propriétaires, beaucoup de locations et vous avez de nombreux paiements à répartir. Avec SysPay, simplifiez-vous la vie. Une fois le séjour réglé, chaque propriétaire reçoit sa part et votre commission est automatiquement versée. Plus besoin de multiplier les virements et les calculs. Caution préautorisée, encaissement sécurisé, suivi centralisé, tout est réuni sur une seule plateforme. Depuis 2011, SysPay accompagne les professionnels du tourisme dans la gestion de leurs paiements. SysPay, le paiement simplifié, la gestion maîtrisée. Informations et contacts sur SYSPAY.com.
Prenez un bon bain de soleil en direct de la Very Good Mobile.
De retour ici donc à l'hôtel des Pins chez l'ami Gernot avec Philippe de Gonneville, maire de Lège Cap Ferret, avec lequel nous devisons autour bien sûr des événements récents, cet incendie qui bien sûr a défrayé la chronique, et puis Déborah qui est également un incendie elle toute seule mais qui provient du sud, elle c'est un petit peu différent. Quant à Loli, eh bien, elle regarde ça avec un regard un petit peu intéressé, voire même amusé, donc c'est parfait.
Je vois que tu as la flamme pour moi.
Oui, on est un petit peu d'accord. Alors donc, cher Philippe de Gonneville, je le disais tout à l'heure, on va passer à deux sujets qui sont bien sûr eux aussi tout à fait, voire même privilégiés par la presse, parce qu'on connaît bien les médias, ils s'intéressent toujours à ce qui frotte. Et donc, on va commencer par ce conflit qui, je pense, est faux dans la réalité entre les maires, par exemple, mais entre les gens qui disent que tout le monde s'est occupé de l'Age Cap Ferret et pas du Porge.
Alors c'est tout à fait faux, c'est complètement inexact. Moi j'étais dans le cœur du réacteur depuis le début, hein, puisque on m'a fait part du début du feu à 13h30. Et quand on a vu l'évolution de la situation, à 17h, on a ouvert le plan communal de sauvegarde et la cellule de crise. Et le feu était encore loin. Et puis assez rapidement, il s'est rapproché du flanc est du Porge. Et notamment près de l'Intermarché, où là, il y a eu un combat entre les sapeurs-pompiers et le feu. Et puis, le vent a modifié un petit peu sa trajectoire et le feu est passé à l'est du Porge. Mmh. Et on nous avait dit qu'il serait à Lège entre 8 et 10 heures du matin. Il était à Lège à 2 heures du matin. Voilà. Et c'est vrai que le feu a quitté le Porge dans la nuit pour arriver sur Lège. Et là, les pompiers sont venus défendre Lège comme ils ont défendu le Porge. Et après, il y a eu trois fronts de feu. Un premier qui est parti vers Arès, un deuxième qui est parti vers le Croc et un troisième qui est remonté vers le Porge et qui a fait des dégâts considérables.
Oui, c'est ça. On croit savoir qu'il y a eu un pif, paf, pif.
Oui, absolument.
Trois fois.
Sur la départementale 3, entre l'Oros et le bourg du Porge.
Deux sauts de vent.
Et là, effectivement, ça a été épouvantable avec plus de 180 maisons qui ont brûlé sur la commune du Porge. Mais en aucun cas, les pompiers n'ont fait le choix de Lège. D'abord, ce n'est pas le Cap Ferret, c'était Lège. Et ils ont fait le choix de Lège par rapport au Porge. Ils se sont battus vaillamment sur tous les fronts. Ont-ils été débordés? C'est bien possible, parce que l'intensité du feu, on n'avait jamais vu ça. Et je peux vous dire qu'ils ont eu un courage extraordinaire, qu'ils ont combattu maison par maison pour éviter qu'il y ait des catastrophes humaines et des pertes de vies humaines et pour éviter que encore plus de maisons ne soient brûlées.
Moi, je vous dis, mon seul truc, je l'ai déjà dit, c'est Flight Radar 24. Si on regarde l'évolution et les mouvements de tous les moyens d'appui aérien, il y en avait pour tout le monde. Hein. Il y en avait au Porges, il y en avait pour Arès, il y en avait pour Andernos, il y en avait pour Lège. Il n'y a eu aucun privilège. On peut les avoir. Il y a des animations qui sont sur quasiment toute la semaine. On voit les déplacements de tout le monde, les déplacements du Dragon, des Air Tractor, des Canadair. Et il n'y a aucun privilège pour qui que ce soit. Les pompiers,
aucun privilège. Aucun privilège. Les pompiers ont fait le job de façon remarquable. Ils se sont battus pour sauver toutes les maisons. Bien évidemment, ils n'ont pas pu toutes les sauver. Mais croyez-moi, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'admiration pour eux.
Et encore une fois, le seul résultat qui compte, c'est qu'il n'y a pas eu de mort civile.
On est d'accord.
Ok. Donc la polémique, effectivement, entre des communes qu'on pourrait tenter d'opposer par rapport aux stratégies de pompiers, vous n'êtes pas le premier à le dire, et vous ne serez sans doute pas le dernier, mais correspondent effectivement peut-être à des frustrations qu'on peut très bien comprendre de la part d'habitants. Tout ça, c'est légitime. Mais enfin, on peut quand même reprocher à certains médias de dire « Ah ben tiens, ça a l'air d'être quelque chose de porteur, et donc on relaie. » Et donc voilà, faites la part des choses un petit peu entre ce que vous lisez et la réalité, peut-être, monsieur le
On est tout à fait d'accord là-dessus. Alors d'abord, avec le maire du Porge, nous entretenons des relations tout à fait cordiales. Ouais. Nous avons une action solidaire pour l'ensemble de celles et ceux qui ont tout perdu.
Vous avez répondu à un hebdomadaire ensemble, d'ailleurs.
Absolument, absolument.
Ok. Alors, évidemment, le sujet évidemment, dont tout le monde parle ici, et d'ailleurs, je me permets de l'évoquer, puisque vous-même avez été donc dans quelques médias donner votre point de vue, notamment sur France 3. Depuis quelques jours, on voit apparaître deux récits autour de cet incendie. Celui d'une défense donc, organisée par les pompiers, la DFCI, l'ONF, la commune, l'État, et puis aussi un récit selon lequel certaines initiatives privées auraient été déterminantes pour sauver le Cap Ferret. Donc, est-ce que cette deuxième histoire correspond à la réalité que vous avez vécue ?
Écoutez, nous avons vécu le feu autour du bourg de Lège. Et le bourg de Lège a été pris en étau. Et l'idée, c'était d'éviter, dans la mesure du possible, que ce feu ne se propage sur la presqu'île. La presqu'île a 11 villages. Il y en a un, Lège-Bourg, qui a souffert dans sa chair. Et moi, mon objectif, c'était de défendre les 10 autres. Et j'ai sollicité les entreprises pour qu'elles donnent un coup de main pour faire le pare-feu qui protégeait Claoué et l'ensemble des villages.
Et la suite de la presqu'île, finalement. C'était la porte d'entrée, quoi.
Et nous avons, quand je dis nous, c'est les sapeurs-pompiers, c'est les entreprises locales, c'est le génie militaire, ont réalisé des travaux absolument remarquables dans un temps qui était compté. Ils ont fait un pare-feu autour du bourg de Claoué, autour du village de Claoué. Et ils ont élargi considérablement le pare-feu numéro 85, qui se situe en gros entre Lège et Claoué, au sud du stand de tir à peu près. Voilà. Ils ont élargi ce pare-feu et ils l'ont étendu depuis la dune océane jusqu'au bassin. Et c'est là que j'attendais l'ensemble des entreprises, quelles qu'elles soient. C'était pour défendre l'ensemble de la presqu'île. C'est-à-dire les 10
villages. Pour les auditrices et auditeurs.
C'était pas de faire un pare-feu à 18 km du front de feu,
ah oui,
qui servait uniquement le village du Cap Ferret. Voilà. Bien évidemment, si le feu avait été aux portes du Cap Ferret, ce pare-feu était indispensable. Là, en l'occurrence, je pense que l'énergie qui a été mise à défendre le Cap Ferret aurait été plus utile à défendre l'ensemble de la presqu'île.
Donc clairement, le message, c'est qu'il ne fallait pas faire le pare-feu au Cap Ferret, il fallait venir nous aider à Claoué.
Je ne dis pas que le pare-feu est inutile au Cap Ferret. Je dis que l'urgence, c'était de défendre l'ensemble de la presqu'île, les 10 villages, et non pas son précaré, et non pas le Cap Ferret. L'urgence, elle était beaucoup plus au nord.
Okay.
Hein, et le courage, c'est d'être au front. C'est pas d'être à 18 km du front.
Il y a quand même quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que les travaux sont stoppés, dans un premier temps, et puis finalement autorisés par la préfecture. Donc comment expliquez-vous qu'une opération que vous avez jugée, je vous cite, scandaleuse, puisse ensuite recevoir le feu vert de l'État ?
Alors les travaux ont été faits sans autorisation. Et ils ont été faits sans même demander aux propriétaires. Les propriétaires des massifs forestiers étaient en l'occurrence l'ONF à 70% et la commune à 30%. De mémoire, je crois que mon téléphone est connu de tous et qu'un coup de fil pour me demander l'autorisation eût été, me semble-t-il, bienvenu. Ce ne fut pas le cas. Et c'est vrai que quand nous avons appris, je puis vous dire qu'on avait d'autres soucis que de savoir ce qui se passait au Cap Ferret. Il y avait des soucis beaucoup plus importants et immédiats, et les vies humaines étaient en jeu, qu'elles soient au niveau des pompiers ou qu'elles soient au niveau des habitants de la presqu'île. Alors, si vous voulez, c'est vrai qu'on avait d'autres enjeux. Mais au demeurant, aucune demande n'avait été réalisée. Et c'est vrai que quand j'ai appris cela et que l'ONF a appris cela, nous avons demandé à la gendarmerie de s'informer sur les intentions et d'arrêter les travaux qui étaient illégaux. Voilà. À partir du moment où ils avaient été commencés, bien évidemment, et ils étaient commencés sans protection de la DFCI ou des sapeurs-pompiers. Ça veut dire que ces travaux ont été faits.
C'était dangereux ?
Absolument.
C'était dangereux.
Ça veut dire que normalement, quand des travaux forestiers sont faits en période de canicule ou de vigilance rouge, voire noire, ils doivent être accompagnés par un dispositif visant à éteindre un éventuel...
C'est un débroussaillage qui a créé
absolument.
Le méga-feu.
Et ce ne fut pas le cas dans la première partie du pare-feu qui a été réalisé. Alors une fois que ce pare-feu a été réalisé, et c'est vrai qu'avec la préfète, nous avons pensé que tant qu'à faire, il valait mieux le terminer et qu'il fallait l'accompagner avec un dispositif pour en mesure d'éteindre un éventuel départ d'incendie. C'est ce qui a été réalisé. Il n'en demeure pas moins que ce pare-feu a été fait dans la totale illégalité et que j'aurais préféré que les personnels et les machines viennent aider les personnels et les machines qui travaillaient sur le pare-feu à 18 km de là, okay, et qui protégeaient les 10 villages et non pas un village.
Donc ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est qu'effectivement les travaux sont stoppés et dans un deuxième temps, vous participez aussi à la décision de dire ok, finissez-le.
Alors je participe parce que là, j'en discute bien évidemment avec la préfète, avec le sous-préfet et que nous décidons qu'il valait mieux dans l'intérêt général, parce que moi, ce qui préside à mes actions, c'est l'intérêt général. C'est pas l'intérêt particulier, c'est pas l'intérêt de ma propriété ou de quelques propriétés. C'est l'intérêt général, c'est l'intérêt de la presqu'île. Et là, en la matière, il me semble que l'intérêt de la presqu'île n'a pas été pris en compte. Ont été pris en compte que des enjeux particuliers. Et je le regrette. Et c'est vrai que quand j'en ai parlé avec Madame la préfète de région, nous avons convenu qu'à partir du moment où le travail était fait à 80%, il valait mieux le terminer. D'accord. Dans de bonnes conditions, mais dans de bonnes conditions et dans des conditions de sécurité.
Après, il y a un deuxième volet à cette affaire qui est le volet de l'après. C'est-à-dire que c'est là où la presse à nouveau intervient et où il y a des témoignages qui sont faits par le capitaine de l'équipe du pare-feu du Cap Ferret qui, là, cette fois-ci, incrimine finalement la municipalité et nomme des gens de la municipalité en expliquant que les incendies sont de leur faute. Et donc, c'est là où vous décidez, je le lis, hein, là, c'est pareil, je n'invente rien, peut-être de porter plainte contre ces allégations.
Alors, nous allons, avec nos conseils, voir ce qu'il est pertinent de faire. Ce qui est certain, c'est que je pense qu'au-delà du travail illégal, la publicité qui a été faite pour cette personne sur les réseaux et sur les médias ont profondément choqué la population de la presqu'île, de l'Esch-Cap-Ferré, et tout particulièrement celles et ceux qui, eux, ont œuvré pour l'intérêt général. Et je pense aux pompiers. Quand vous entendez sur une télévision, CNews pour ne pas les citer, où ce monsieur dit que l'incendie n'a pas été éteint par les pompiers, mais par le vent, je pense que c'est extrêmement blessant pour les 3300 sapeurs-pompiers qui étaient prêts à donner leur vie pour défendre nos habitations, nos vies et nos forêts. Je ne peux pas admettre cela et je crois que ce monsieur a franchi la ligne rouge et vis-à-vis des sapeurs-pompiers, vis-à-vis de toutes celles et ceux qui pendant 15 jours ont œuvré pour défendre la presqu'île, pour défendre notre territoire, pour défendre la Gironde, c'est pas acceptable.
Alors une dernière question, peut-être la plus difficile de la série, mais il faut bien la poser aussi. Il vous est adressé aussi la réflexion que, puisqu'on a pu faire en quelques jours dans l'urgence ce grand pare-feu de Klaue protecteur, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait dans les années précédentes, alors que vous aviez vous-même évoqué la nécessité de le faire? Donc est-ce que quelque chose a bloqué le processus?
Bien sûr, quelque chose a bloqué le processus, bien évidemment.
Ben quoi?
Ah ben les propriétaires des massifs forestiers déjà. L'ONF et les propriétaires forestiers n'ont pas voulu réaliser les pare-feux. Alors moi, on me dit, le maire ne fait rien. Mais comment voulez-vous que je fasse des pare-feux chez autrui? Et qui paye les pare-feux? Donc après, il faut se poser les bonnes questions. Alors moi, la bonne question, c'est la vision de l'avenir. Et je vais vous donner ma vision de l'avenir, si vous le souhaitez.
C'est pour ça que vous êtes là, entre autres.
D'abord, on ne se fait aucune illusion. Le changement climatique est là. Et il faudra adapter notre façon de vivre et notre forêt à ce changement climatique. On aura de plus en plus de canicules dans le sud-ouest et il faudra s'interroger pour savoir comment faire pour vivre, continuer à vivre sous la forêt. Je ne suis pas un sachant, soyons très clairs.
Non, mais vous êtes le sachem.
Mais il me semble que les pare-feux devront être créés d'abord pour quadriller notre massif forestier des Landes de Gascogne avec des pare-feux conséquents. Et deuxièmement, que chaque village, chaque bourg soit protégé par un pare-feu conséquent aussi, c'est-à-dire un pare-feu suffisamment large, et je ne sais pas quelle est la largeur qui est préconisée, mais ça, il y a des sachants pour le faire, et qui soit entretenu. Alors comment faire pour l'entretenir? Et bien, pour l'entretenir, il faut des financements.
C'est comme les tropéziennes.
C'est vrai.
Ça coûte cher.
Pour les entretenir, il faut des financements.
Ça coûte cher et mon idée quand même, c'est de créer une taxe sur le foncier non bâti de façon à trouver du financement. Alors, est-ce que ces travaux seront confiés à la DFCI? Est-ce que ces travaux seront confiés aux intercommunalités? Là, je plaide pour que ce soit confié aux intercommunalités. Pourquoi pas? Parce qu'il me semble que c'est la bonne échelle. Les régions, c'est trop grand et la commune, c'est trop petit. L'Interco, si elle a les moyens, elle peut le faire efficacement. Et puis, il faut changer de paradigme.
Ça tombe bien, vous êtes devenu président de Coman.
En plus. Aujourd'hui, le paradigme est le suivant. C'est l'habitant qui crée le risque de feu de forêt en venant s'installer auprès du massif forestier. Eh bien, je crois qu'il faut changer le paradigme et il faut dire... Eh bien, c'est le propriétaire forestier, quel qu'il soit, qui est responsable et qui doit trouver des solutions pour accepter la création de pare-feux et son entretien. Alors, est-ce que c'est à confier à la DFCI? Pourquoi pas? Ils sont très compétents en la matière et il faut trouver le financement. Est-ce que s'ils n'arrivent pas à s'organiser, est-ce qu'il faut le confier aux intercos? Moi, c'est ce que je vais proposer au Premier ministre, en tout cas, c'est-à-dire trouver des financements et que tous les bourgs des Landes de Gascogne soient protégés par des pare-feux. Je pense que c'est extrêmement important et que ces pare-feux soient entretenus. Okay. Voilà un petit peu ce que je voulais dire sur ma vision des choses. Et après, comment adapter la forêt à l'évolution climatique? Alors, je ne suis pas sachant non plus. Le pin maritime est particulièrement adapté à notre région puisqu'il permet quand même de pomper quand même beaucoup d'eau. Et sur le massif dunaire, il est adapté. Faut-il le mélanger avec d'autres essences? Je ne sais pas, mais peut-être. Faut-il en lisière mettre d'autres essences éventuellement? Faut-il se faire aider par des professionnels, bien évidemment, notamment dans le milieu agricole et les chercheurs en agriculture? Mais je crois qu'il faut quand même qu'il y ait un avant et un après. Et il faut que l'ensemble des pouvoirs publics, quels qu'ils soient, et les maires en particulier, et les présidents d'Interco, prennent leurs responsabilités pour nous protéger, pour protéger nos habitants d'un éventuel feu dans les années à venir.
Ok. Alors, on avait entendu ce discours aussi, mais pas de votre part, en 2022. Et on forçait de constater qu'il ne s'était pas passé grand-chose, ou en tout cas qu'on pouvait encore se faire feinter. Donc, espérons que la leçon de 2026, cette fois-ci, sera vraiment tirée. Voilà, merci beaucoup Philippe de Gonneville d'avoir soustrait, je le répète, une heure à votre emploi du
temps.
Merci
à vous.
Bien chargé. Nous, on va faire tout de suite une petite page publicitaire et musicale et puis je vais appeler la dépêche du bassin qui seront bien frustrés de ne pas avoir pu poser de questions à Philippe de Gonneville et tant pis pour eux. À tout de suite.
Mmh. many sights to see. And when I look in my window, so many different people to be, that it's strange, so strange. You got to pick up every stitch, you got to pick up every stitch, you got to pick up every stitch. Do you think I see some other cat looking over his shoulder at me? And he's strange, sure is strange. You got to pick up every stitch, you got to pick up every.
Very Good News avec la dépêche du bassin. Que les bonnes nouvelles de l'été.
Et voilà, de retour ici sur le plateau de l'Hôtel des Pins et je suis en direct avec notre ami Jean-Baptiste Laine de la dépêche du bassin. C'est le grand jour. Vous sortez aujourd'hui votre nouveau numéro.
Oui, bonjour Hervé, bonjour à tous. Et oui, nouveau numéro estival qui sort ce jeudi un peu partout sur le bassin d'Arcachon et sur le Val de l'Air. Avec de l'agenda, parce qu'on voit que l'agenda reprend quand même. Oui. Donc, il y a des fêtes de l'été qui sont maintenues malgré tout.
C'est ça. Bah, donc celle de Lège Caféret.
Oui, voilà, celle de l'Eche Cap Ferret, et juste en face, les fêtes de la mer à Arcachon, oui. Les vendredis et samedis. Donc voilà, on sent que ça y est, il y a du monde, ça y est, les gens veulent respirer, veulent sourire un petit peu plus. Donc oui, les festivités sont de retour pour cette deuxième quinzaine d'août.
Ok, ça c'est une très bonne nouvelle. Alors qu'est-ce qui nous attend au menu de cette merveilleuse dépêche du jour ?
Ah bah alors, comme je t'en avais parlé hier, c'est à la fois un mix entre les suites des incendies, entre des belles histoires et entre de l'agenda. Mais alors, ce que je voulais mettre en avant ce matin, c'était à la fois une belle histoire, mais qui est toujours liée au feu. Oui. Mais j'étais ce matin au Grand Croc avec l'ONF.
Ah, très bien.
Et donc, on
était avec le maire de l'Eche Cap Ferret à l'instant, on parlait justement de tout ça. Vas-y.
Ben voilà, mais donc moi j'étais avec l'ONF et donc il y a une course contre la montre qui est lancée depuis hier. Il y a 6 abatteuses qui sont là pour sécuriser les accès depuis la zone d'activité jusqu'au parking du Grand Croc.
Ah oui.
30 mètres de chaque côté pour ne plus avoir d'arbres fragilisés qui menacent de tomber. C'est un travail absolument titanesque qui est fait par les prestataires de l'ONF qui ont été réquisitionnés aussi. Avec l'objectif, le maire vous l'a sûrement dit, de rouvrir la plage
le plus vite possible.
En tout début de semaine prochaine.
Exactement, donc, il a parlé du 17.
Exactement, il y a cette date un petit peu du 17. Et alors, donc, c'est une bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle, c'est que tout ce qui est infrastructure, donc les deux campings, la maison de la glisse, etc., sont tous indemnes. En revanche, ce qui va être très triste, c'est que dans les mois qui viennent, on va dire à partir de cet automne peut-être, le paysage va changer du tout au tout sur cette forêt dunaire qui est magnifique. Et donc voilà, mais ça c'est dans un second temps. Donc tout ce qui est coupe, aujourd'hui ce sont seulement les coupes de sécurité menées par l'ONF, c'est très impressionnant.
Sans doute.
Mais on sait que c'est, vous le savez mieux que moi autour de la table, mais le Grand Croc, c'est une plage qui est iconique, mais aussi un peu stratégique pour les gens du sud Médoc, pour les gens de Bordeaux, pour les gens de l'Aige.
Exactement, elle est proche. En plus, effectivement, elle a cette beauté atlantique inégalable. Elle est incroyable, cette zone.
Ouais, cette zone est incroyable. Alors et on voit quand là on est allé jusqu'à l'océan et on voit vraiment que le sable au sud, le sable s'est vraiment arrêté sur le sable. C'est-à-dire que le sable ne brûlant pas, le feu n'avait plus de combustible. Oui. C'est assez étonnant. Le sable est allé à quelques dizaines de mètres de l'eau.
Bon, écoute, incroyable. Alors ça, c'est effectivement un gros travail en cours et absolument nécessaire. Donc ça recoupe les infos qu'on avait. Sinon, vous allez bien, vous à la dépêche, vous n'êtes pas trop crevé là. Là-bas à la rédac, parce que vous êtes petite équipe et puis il s'est quand même passé des choses cet été.
Oui, moi je sais que je prends quelques congés pendant 2 semaines les vagues de canicule nous assomment un peu. C'est vrai qu'on se disait ça presque tous les jours en ce moment, que l'été a été quand même assez éprouvant. Sans compter cet incendie majeur, mais l'été a été éprouvant. Je pense qu'il a fatigué aussi beaucoup de monde. Les organismes sont un petit peu fatigués. Je ne sais pas si côté nord c'est la même chose.
Bah écoute, ici c'est bizarre. Je le dis assez régulièrement, mais on est ambivalent. D'un côté, on est content que ça soit recommencé, que quelque part il y ait une espèce de poche intemporelle hors finalement de l'actualité et j'ai envie de dire des événements négatifs. Mais de l'autre, ça a épuisé aussi mentalement. Ça a mis une espèce de charge à tout le monde. Donc c'est bizarre. C'est une impression un petit peu surréaliste, en fait.
Ouais, c'est ça. Et puis, cette espèce de... Le matin, là, quand on passe, j'étais au Porge aussi ce matin, quand on passe, et qu'on a cette humidité un petit peu du matin et cette odeur qui est persistante, c'est assez... Enfin, voilà, c'est très gênant. Puis, on voit les dégâts. Okay. Vraiment, cet été aura laissé une marque... assez indélébile quand même.
Oui, c'est vrai que le matin avec la rosée, en fait, tu as des odeurs qui remontent, qui disparaissent au bout de quelques heures, mais le matin, chez moi, du côté d'Arès, etc., on sent vraiment l'odeur qui revient.
Ok.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Bon, ben voilà. Bon, JB, je vais te libérer pour aujourd'hui. C'était sympa de faire cette petite intervention malgré l'emploi du temps très chargé. Et puis, ben, on vous embrasse toutes et tous là-bas à la rédac.
Merci à vous, puis bonne journée à tout le monde.
Et bon
Merci
rendez-vous beaucoup. À toi. Salut.
Merci.
La dépêche tous les jeudis pour tout savoir sur le bassin.
Allez, de retour maintenant entre nous les amis, ça y est, on va pouvoir un petit peu se décontracter. Déborah, bravo, tu nous as fait un petit édito qui n'était pas piqué des hannetons. Il était tout rouge à la fin, notre mère, là, qui est aux cieux.
Ah, j'ai pas osé le regarder.
Ah ouais, c'était très très drôle. J'ai filmé sa tête.
Ah oui.
Très, très drôle.
Et puis il allait mieux que tu le regardes pas, parce que sinon on n'aurait pas entendu ce que tu disais.
C'est le problème. C'est ça, sachant que je suis pas habituée des micros.
Voilà, voilà. En tout cas, c'était bien joué, bien écrit comme d'habitude.
Merci.
Et bien, t'étais bien en édito, toi, vraiment parfaite.
Ouais. Et pourtant, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais je l'ai préparé en même pas 5 minutes hier entre souvent, une éclipse. Et...
Voilà. Moi, je suis meilleur dans l'urgence. Par exemple, si j'ai 4 jours pour préparer un truc, alors que si j'ai 5 minutes, ouais.
C'est exactement comme ceci que j'ai procédé.
Moi, c'est pareil. Si j'ai 4 jours, je le fais aux 5 dernières minutes.
Voilà,
c'est humain, hein, on est tous pareils. Hein.
Ah non, il y a des gens qui prévoient. Quand ils ont 4 jours, ils le font tout de suite. Et comme ça, c'est fait.
Alors, c'est ça, la procrastination.
C'est ça.
Nous, oui, c'est la procrastination. C'est qu'on attend le dernier moment pour faire l'urgence.
Je pense qu'il y a une source d'inspiration réelle qui naît de l'urgence aussi.
C'est ça. Quelque part, c'est intéressant et important. Bon, en tout cas, voilà, c'était un bien joué ton
merci
édito
beaucoup.
Et je pense qu'il reviendra pour la peine.
C'est un petit peu de baume. Je vais après. Vous allez vraiment me faire déménager. Je vais avoir envie de revenir.
C'est comme Bienvenue chez les Ch'tis avec la déboutée. À chaque fois, elle dit oh là là, mais je pleure. Puis en fait, 2 jours après, tu la vois en photo sur Instagram à Saint-Trope, à moitié à Walp, à la plage.
À la voile rouge.
Complètement oubliée. Tu vois, l'hiver, elle est à Courche.
Non, elle
va aux Antilles. Tu parles qu'elle pleure. Mais si, tu as une grande belle
vie. La vie est courte. Je l'ai appris très vite. La vie est courte. Il faut savoir en profiter.
Exactement. Et tu as une très très belle vie et j'espère en tout cas elle semble l'être et on est très heureux pour toi que tu l'aies.
En tout cas, je fais toujours en sorte de bien m'entourer et vous en faites partie. Ah bah écoute, et j'ai vraiment découvert au sein du Cap Ferret une nouvelle famille.
Ouais, c'est vrai. Quand t'es adopté.
Non, mais c'est vrai, je rigolais pas tout à l'heure quand je disais que le Cap Ferret c'était Saint-Tropez à mon cœur, mais Cap Ferret lui fait concurrence hautement. Bon,
petit à petit.
On peut pas comparer, mais il y a quand même beaucoup de similitudes entre les deux.
Ouais, ça c'est Tadei qui me disait ça, la longue époque. Je lui disais, ouais, la différence c'est que nous on est hyper simple et tout. Et il éclatait de rire, il me disait pas du tout. Vous avez autant de codes qu'eux, mais c'est pas les mêmes.
C'est pas les mêmes, exactement.
C'est pas les mêmes, c'est vrai. Ouais, mais il y a une liberté et je trouve que le Cap Ferret a tendance à ressembler peut-être au Saint-Tropez. D'avant. Alors, c'est toujours facile de dire d'avant, mais...
Oula, dis pas ça, sinon après, on va se prendre une vague.
C'est compliqué. Alors, tiens, on va se faire un petit peu de météorologie.
Il y a Bruno Juge qui nous dit ne jamais faire le jour même ce qu'un autre peut faire le lendemain.
C'est ça.
Lui, il pousse encore plus le truc. C'est-à-dire qu'il le donne à quelqu'un d'autre.
Il est parfait. Alors, on va faire dans l'ordre suivant. On va faire la météo et après, on fera les news de notre ami Loli.
Bon, et ben, on va tenter cette météo comme d'habitude.
Tentons-la.
La météo vous est présentée par Glisse en Herbe. Glisse en Herbe, village de l'herbe. Envoyez-vous en l'air en parachute ascensionnel et contemplez le plus beau paysage du monde à côté des oiseaux. Glisse en Herbe, village de l'herbe. Tracez des courbes sur l'eau en foil à côté des poissons.
Alors, nous sommes donc le 13 août, mais comme ce n'est pas vendredi, ce jour ne sert à rien. Il ne porte ni chance ni malheur. Donc c'est en toute sérénité que je peux vous livrer la météo du jour en picorant des... Pourquoi... Ah non... J'ai un problème technique. J'ai un problème technique.
Quel dommage.
Ça c'est zut, hein.
Bah oui.
C'est zut.
Ah bah oui, c'est dommage.
Normal, je suis là.
Ouais, voilà. Ah, tu fais chat noir.
Toujours.
Ben non, je suis désolé.
J'ai des interférences avec les ordinateurs électroniques. Voilà.
Ouais, merci.
Fallait pas m'inviter.
Tu vas t'éloigner.
Alors là, on était censé entendre un bruit de vaisselle qui se casse.
Voilà, et je devais dire ah merde, mon assiette de tapas. Bon, alors je pense que cette météo va avoir une autre tête.
On sait jamais. Peut-être que le bouton 2 marchera.
Non, j'ai essayé les 4. T'as qu'à les faire à la bouche. Hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Bon, ben d'accord. On va faire ça comme ça. Recommence. Vas-y.
Ben voilà, donc c'est donc en toute sérénité que je peux vous livrer la météo du jour en picorant, mais. Merde, mon assiette de tapas. Quelle malchance. Heureusement qu'on n'est pas vendredi. Donc, bon, il va faire 29 degrés aujourd'hui. Mais comme d'habitude, le ressenti va atteindre 39 et on va dégouliner de transpiration si jamais on n'est pas dans la piscine en attendant le départ à la plage. Là-bas, l'eau sera à 23 degrés. Un peu fraîche par rapport à la pistoche, mais très chaude par rapport aux boutanches de rosée givrée j'y crois pas, il y a une mouette qui vient de passer par la fenêtre. Oh, la grosse mouette. Je vois bien. Jeudi 13. Jeudi 13. Non, mais c'est pas clair. C'est comme le vent. Lui, il sait pas où donner de la tête. Un coup à l'est, un coup au sud, paf, au sud-ouest. Ça finit au nord-ouest. Là, c'est vraiment n'importe quoi. Évitez la voile, sinon vous allez devenir fou. Hein. Rien ne vaut un bon bateau à moteur pour. Mais c'est quoi le bordel?
Je suis planté au milieu. Mais je suis planté au milieu du bassin. Non, mais j'ai mangé un chat noir ou quoi? En plus, la mer ne sera haute qu'à 18h43. Et avec ce coefficient de 100, j'ai le temps de me retrouver à New York avant que la SNSM me trouve. Mais c'est pas possible. J'aurais dû aller faire du surf. Avec des vagues de 60 cm, je risquais rien du tout. Je me suis emballé sur le jour, mais le 13 tout court qui porte la poisse et Hein, quoi? Cette chronique est magnifique. Bon, bref, bah voilà, ça y est, on a compris. Jeudi 13, ça craint aussi, les gars. Oui. C'est garanti. On revient aux fêtes qui célèbrent des prénoms qui ne se donnent que dans le 16e arrondissement, puisque c'est le jour des Hippolyte et que les gonzes qui s'appellent comme ça, crois-moi que les parents, ils ont de l'oseille. Ne dit-on pas trop Hippolyte, pour être honnête, d'ailleurs. Voilà, sinon, c'est un 13 août 1521 qu'Hernan Cortés échange un porte-clés Lidl contre 100 tonnes d'or à des crétins aztèques. Et puis, décidant que ce n'est pas assez, il s'empare aussi de la capitale Tenochtitlan. Certains historiens pensent que c'est de là que provient l'expression aztèque haché. Mais c'est pas tout à fait sûr. En tout cas, ce qui est clairement établi, c'est que le 13, c'est un jour de...
C'était la météo, offerte par Glissant Herbe, village de l'herbe, depuis les airs en parachute ascensionnel ou bien en foilant sur les flots pour un été plaisir au paradis. www.glissantherbe.fr.
Que Jean Bonifazi nous pardonne de sponsoriser cette rubrique de plus en plus lamentable au fur et à mesure que l'été avance.
Oui, mais ça va devenir ma marque de fabrique.
Oui, ouais, mais c'est un peu mon culte sur la commode en même temps, c'est pas mal. Alors Loli, toi tu es chargée des news aujourd'hui et donc tu vas nous donner un petit programme des réjouissances.
Programme bien chargé.
Puisque les fêtes de la mer, c'est pas plus tard qu'à partir de ce soir ou demain, tu vas nous dire ça tout de suite.
Michel, ma belle.
Les bons plans de sortie, c'est Michel Capferré qui les donne. Les super glaces artisanales, le coffee shop, le bar à vin sont en incontournable. Michel Capferré, route du Ferré au canon.
Oui, là, c'est toi. Tu... Voilà.
C'est à toi.
Alors, il va falloir que je fasse rapide parce qu'il y a quand même un programme assez chargé.
Vas-y.
Donc, on commence par la fête foraine du jeudi 13 août au dimanche 16 août. Donc, on a tous les jours l'ouverture de la restauration dès midi avec à 19h l'animation qui est vraiment assurée par une banda. Le vendredi 13 août, la banda de Léjotte Fanfare à 21h30, on a Notorious. Ce sont 5 musiciens.
Big.
Professionnel qui vous propose un concert mémorable inspiré par les plus grandes stars internationales de l'histoire telles que Michael Jackson, Bruno Mars, Chuck Berry, Maroon 5, Ed Sheeran, Stevie Wonder, Bob Marley, les Beatles ou encore James Brown.
Oh, c'est beaucoup, ouais, c'est bien.
Ça fait pas mal. Il y a aussi Eminem, Daft Punk, Prince, Sting et bon après il y a un assez gros répertoire mais je les connais pas tous.
À 23h30. Le mot gros est banni à cette antenne.
À 23h30, il y a DJ set John May qui finit à 1h. Je sais pas si je le prononce bien. Le samedi 15 août, on a à midi la banda Les Jeutes Fanfare, toujours pareil. Le soir, on a la banda La Cocarde. À 8h30, de 8h30 à 14h, on a l'exposition de la SNSM. À 10h, on a la messe en plein air, donc la bénédiction qu'on attend tous. À 11h, défilé nautique. Midi, l'animation musicale assurée par la banda. 21h30, concert du groupe Madame Rouge, donc l'énergie de leur concert.
Si l'auditrice ou l'auditeur arrive à retenir quelque chose de cet énoncé, il est fort.
Noter, c'est long, je vous l'ai dit, le programme est chargé, il faut que je fasse vite. Hein.
Faut écouter le podcast.
Ou pas, t'es pas obligé de faire vite en fait. On adore
ouais,
ta voix.
Ouais, mais ça fait.
Bien, tu vois.
C'est long, hein. Va falloir que les gens enregistrent.
Fais un petit commentaire
hein.
Gentil sur chacun.
De toute façon, il y a tout sur la ville de Lège Cap Ferré.
Exactement.
Et ensuite, le feu d'artifice, bien sûr, il est annulé. Et à 23h15, la reprise du concert Madame Rouge jusqu'à 1h. Et
formidable.
Ensuite, on part sur le dimanche 16 août à 15h, régate des voiles traditionnelles. 21h30, concert Sandy Mock. Donc ce groupe propose un univers musical qui regroupe les styles.
Je connais son frère, moi, Mini Mock.
Ça, c'est de chez moi.
Il y a du soul, du funk, électro.
Ouais, il soul, ouais. Ah, pardon.
Et ensuite, à 23h30, DJ set John May, qui finit à 1h.
Quelle merveille. Et alors donc, tu as un détail à l'intérieur du programme, puisqu'en fait, il y a les fêtes de la mer spécifiques qui déroulent eux aussi leur petit programme.
Donc, ils ont publié... Donc,
et ça, c'est un bisou à Laure Rivière, qui se casse le bol à organiser ce truc depuis déjà des semaines.
Oui.
Laure, si tu nous écoutes, bravo.
Même plus que des semaines, à mon avis. Donc, on a, à 9h, l'ouverture du village de la mer et des littoraux. 10h, messe en plein air. 11h, bénédiction des bateaux et des filets nautiques.
Wow.
Donc on a un hommage aux marins en présence de l'escalumade, la SNSM, des plaisanciers du territoire et d'un passage du Dragon 33.
Ça, c'est l'hélicoptère.
Ça, c'est
qu'on
peut aller toucher le pompon.
On peut toucher le pompon du marin, il n'y a pas de souci, ma chère Déborah.
À midi, discours de Madame la députée Sophie Panonacle et de Monsieur le maire Philippe de Gonneville.
Oh, lui-même, himself.
Ton fameux Philippe.
Le crush.
Encore un créneau.
Encore un créneau. Ouais. Midi 30, apéritif ostréicole en présence des ostréiculteurs du syndicat de la Côte Norrois et du comité régional de la conchiculture du bassin d'Arcachon.
C'est beau.
Animation musicale avec la Ligotte Fanfare et le Chœur Marine de la Flotte.
Wonderful.
Et à 13h, déjeuner avec les clubs handball et rugby.
T'es pas de salle, toi, à 13h
Et l'association des bénévoles de la presqu'île, place Ubeda. Ubeda, je vais y arriver. Voilà. Et 14h, baptême à bord du voilier l'Escalumade.
Maintenant que tu as une très très bonne vue, tu peux nous dire ce qu'il y a dans le carré orange.
Alors non, parce que figure-toi que je ne vois pas grand-chose. Alors je vais essayer de me rapprocher le plus possible. Exposition sur le capitaine de frégate Camille Tissot avec l'association CD
Rome.
Rome, je vois pas bien du tout. Exposition de photos de pinasse et de cabane ostréicole. La science tour littoral avec les petits débrouillards. Animation gratuite autour de l'environnement marin, du développement durable et des enjeux liés au changement climatique. Animation Ici commence la mer avec Lions Club.
Et où finit le père?
Découvrez, me perturbe pas, déjà que je vois pas grand chose.
Si.
Découvrez votre C-score, l'impact réel de votre mode de vie sur l'océan, animation DJ et stand. Ah ouais, alors là je vois rien du tout. Flotte Nord-Bassin, on a quoi? Gendarmerie marine.
Ouais, vas-y.
Oh, wow. Non mais je vois rien du tout. Les amoureux de la presqu'île, en fait. L'association des plaisanciers, du bassin d'Arcachon, les copains de la cabane, l'Escalumade, voilà. Longe-Côte, Mission de la mer. Ensuite, on a le Sémaphore, la SNSM, Société historique et archéologique du bassin d'Arcachon.
Bravo, voilà. Tu l'as fait.
Là, on est pas mal.
Félicitations.
Bon programme.
Regarde les papiers, ils vont servir
voilà
demain.
Pour les bons plans du jour. On a bien mérité notre pause canon chez Michel Capferret. Suivez tous sur Instagram, @MichelCapferret.
Alors, une émission un peu particulière, vous l'avez compris, puisqu'on mettait tout le paquet sur la première heure et la réception de Philippe de Gonneville. Mais comme on a Déborah, on va quand même profiter encore un petit peu d'elle avant que je ne termine par le coup de cœur de la Maison de la Presse. Donc, ma chère Déborah, hier, tu étais d'éclipse.
Hier, j'étais d'éclipse. Nous sommes partis en bateau, à plusieurs bateaux, sur le banc d'Arguin.
D'accord.
C'était fantastique. On s'attendait à ce que ce soit tout noir, mais
merde,
pas
toi.
Du tout. Comment ?
T'as une vie de merde.
Oh ouais. Oui, VDM.
Ça va être tout noir.
Ça va être tout noir, exactement. Et non, mais il y avait une lumière fabuleuse.
Vous étiez nombreux là-bas ? Il y avait des bateaux ?
Il y avait énormément de bateaux. Et alors, ce qui était impressionnant, bon, je ne suis pas d'ici, mais j'imagine que cet événement n'arrive pas tout le temps, c'est que la dune du Pila était noire de monde.
Ouais. Exactement.
Et c'était magnifique à photographier. C'était extrêmement beau.
Et le banc d'Arguin, vous avez pu pitcher ou pas?
Oui, mais on n'a pas cherché. En revanche, ouais. on a peut-être embêté tout le monde. Alors, pardon les voisins d'hier. On
Pourquoi
a mis la musique un peu forte.
Ouais, non, ça, on n'aime pas du tout.
On a fait la cagole.
On a mis de la jolie musique, je vous assure.
Ouais, mais ça, c'est Nicolas K, ça. C'est un mauvais sujet, c'est clair.
J'ai voulu aller me baigner, mais mes amis, alors, je ne sais pas s'ils m'ont fait une blague. Paraît-il, il y a des méduses chez vous
aussi.
Oui, alors,
je pense
que c'était réservé à la Méditerranée.
Ouais, alors, ça va mieux quand même. Hein.
Ça va mieux, mais il y a eu quelques physalies.
Tu sais,
qui sont comme des bulles de Malabar, là, un peu dégueu. Longs tentacules, un peu. Voilà.
J'adore ça.
Ben oui, les longs tentacules, oui. Alors. Bon, écoutez, franchement, la morale rétro cette intervention,
j'adore,
mais nous l'acceptons.
C'est génial, la chronique aujourd'hui.
Nous l'acceptons. Et voilà, donc, est-ce que, moi, qui ne l'ai pas vu, je bossais bêtement, je ne me suis même pas déplacé voir ça.
Tu ne l'as pas vu ?
Non. Est-ce que, du coup, c'était noir-noir ?
Non.
Vraiment... Non. Non, c'était pas noir-noir et on a eu la chance. Je remercie une certaine Capucine hier qui m'a donné des lunettes puisqu'on en avait précommandé. Malheureusement, les commandes n'étaient pas arrivées et grâce à la paire de lunettes, on a pu voir qu'il y avait vraiment un tout petit liseré de soleil qui
restait en haut.
Ouais, il restait.
Voilà. Mais il y avait une luminosité absolument apocalyptique, digne d'un film.
Alors c'est vrai qu'au moment, au plus grand moment de l'éclipse, c'est-à-dire à 20h25, quand la lune était vraiment devant le soleil, il n'a pas fait noir, mais par contre, il y avait une drôle de luminosité qui n'était pas sans rappeler l'orange de l'incendie.
C'est ça, il y avait un soleil un petit peu occulté,
je
me rappelle, il y avait une espèce de clignotement dans le soleil.
Et une luminosité qu'on voit jamais.
D'accord.
Mais c'était très
bien. Alors il paraît effectivement, toi qui sais tout, mon cher Brutal, que c'est une éclipse rarissime, il n'y en aura plus d'ici notre vivant, quoi. Si, oui.
Écoute, la dernière était à 25 ans, la dernière était en 99, ouais.
Le 11 août, d'ailleurs.
En 99, mais la prochaine, elle est en 2084, un truc comme ça, non?
D'accord, tu vois.
Il y a Il y a que toi qui la verras. Alors.
Moi, je serai encore là. Moi, je serai encore
non.
Oui,
ah si, je serai encore
exactement,
là.
Exactement. Ah, Pierre Marin de 7 à côté de Georges Brassens. Ce sera très bien. Quoi qu'il en soit, 2084, c'est dans combien?
Je crois que c'est ça, 2084. Oh,
c'est 60 ans.
C'est pas l'heure de faire des maths, là. Okay,
voilà,
ah
ouais,
moi, je serais supporter de l'AS. Hein, allez, les Verts. Bon, allez.
Les Verts de terre.
C'est ça, exactement. Bon, dis donc, mon cher Brutal, tu vas me mettre un petit coup de Maison de la Presse, s'il te plaît.
Ouais, je vais te mettre un petit coup. Toi.
Allez, s'il te plaît.
Les coups de cœur de la presse du Ferret. Conseils de lecture, signatures, événements, tout l'été sur Very Good Cap Ferret.
Alors ça tombe très très bien que la chronique littéraire traite aujourd'hui, bien, se trouve un petit peu plus tard que d'habitude, puisque l'auteur en question s'appelle Patrick Tardif. Donc tu vois, il se serait appelé précoce, on était mal, mais là en l'occurrence c'est parfait. Donc il est encore en train de signer au moins jusqu'à 13h là-bas devant la Maison de la Presse, boulevard de la Plage, chez nos amis. Et puis bah donc il a écrit quoi Patrick Tardif? Il a écrit Clara est vivante. Donc
c'est bien pour elle.
On est bien content d'ailleurs pour elle, effectivement. Et c'est une nouvelle enquête de l'inspecteur Aristote.
L'inspecteur Aristote.
Alors, on voit bien tout de suite là, la référence à la philosophie grecque, ce qui déjà commence à nous passionner. Et donc, Clara est vivante. Eh bien, c'est une sale affaire pour ce détective privé qui est accusé de séquestration, de viol et de meurtre sur mineur. Donc, la routine, ça va être dur pour lui. Disparition inquiétante d'une jeune fille et un corps retrouvé au large d'une île aux oiseaux. Nous tremblons d'ores et déjà là. L'idée de la lecture. Donc voilà, Patrick Tardif, en fait, je plaisante, mais il a un style vraiment très très sympa. Moi, j'ai lu deux de ses ouvrages et c'est vivant, c'est d'un langage parfaitement humoristique et en même temps, l'intrigue est très très solide. Donc ça vaut la peine et puis c'est chez nous, hein, on l'a bien dit. C'est Île aux oiseaux, corps retrouvé. Un livre absolument passionnant. Et donc.
Maison de la Presse, boulevard de la Plage au Cap Ferret, le partenaire de l'été.
Ah bah, tu jettes ton papier, pour moi, c'est la fin de la chronique.
Tu as raison, mais c'est pour faire un peu le malin devant les filles.
Ah d'accord.
Tu vois, je veux dire, c'était un peu le mec, regardez, je connais trop mon truc.
C'est pas le papier qu'il faut jeter, hein, c'est le t-shirt.
Alors là, non, par contre, si je veux impressionner les filles, il ne faut pas que je l'enlève. Alors blague à part, on a encore quelques minutes, on va terminer à la demi aujourd'hui, ou presque, parce qu'on a des obligations militaires, dirais-je. Donc Déborah, puisque tu vas peut-être revenir demain, ou pas?
Ah, bah,
t'as envie?
Oui, j'ai envie.
J'ai un bâtonnier demain. J'ai un chef des avocats.
Bah, c'est une histoire de bâton, ça va l'intéresser.
Mais c'est surtout un de mes anciens confrères.
Alors justement, j'ai le Stéphane Guittard qui vient de rendre visite. Il a deux gros sujets parce que d'abord, les avocats cette année sont longuement mis en grève. Donc il va nous expliquer pourquoi, parce qu'il y a quelque chose qui est une réforme pénale qui, paraît-il, les embête beaucoup. Et également, il va venir parce que les avocats, et notamment le barreau de Bordeaux, s'est mis à la disposition des sinistrés justement après les incendies. Et donc il va aussi nous expliquer le principe de solidarité que les avocats ont mis en place. Voilà. Et puis pas que, parce que j'essaie de faire venir, c'est pas encore sûr, mais notre ami Cédric Couvet, C4-4, qui a monté le Sober Club, et qui est un gars qui monte des podcasts sur des gens qui expliquent que depuis qu'il picole plus, ça va très bien.
Et donc,
vous êtes tous concernés. Donc,
ah oui, on est bien concernés.
Non, moi ça m'intéresse pas, je suis pas dans le club.
Oui, non, c'est Drink Happy.
Ça va me mettre le moral à plat, vaut mieux que je vienne. Hein,
mais si, tu vas voir, il est hyper sympa,
c'est un ancien DJ.
Entre prendre un coup de bâton et puis apprendre que l'alcool c'est moche, très sincèrement.
Au contraire, il est très positif, Cédric. Tu vas voir, il est quelqu'un, il est DJ. Tu vois, donc
il est DJ.
Il a joué au Baron, il a son émission de télé et tout, il est top, 4-4. Tu vas voir.
Parfait. Pour une blonde platine, je ne peux que aimer les DJ.
Ah bah exactement.
Bravo.
On se retrouve demain, donc à partir de 11h, ici à l'Hôtel des Pins, pour une nouvelle émission. Excusez-nous de faire un petit peu plus court aujourd'hui, mais voilà, j'ai un rendez-vous incontournable. Merci à toutes et à tous.
Je suis court mais intense, merci.
Bravo. Débo, c'était super ton édito.
Merci, quel plaisir de revenir parmi vous. Merci de votre
accueil.
Exactement.
Loli, merci beaucoup. Brutal, merci beaucoup. Verygood.fr, tout à l'heure pour le podcast qui sera mis en ligne rapidement. Et je vais donner, pas plus tard que tout de suite, la photo et le titre à Brutal. À bientôt, Verygood.fr. Bordel.
Bain de soleil, c'est fait pour aujourd'hui. Mais l'Hôtel des Pins vous attend tous les soirs pour un dîner sous la verrière centenaire à l'ombre des rosiers du bel Albicia.